Le dîner de chasse. J'étais un jour à un dîner chez un vieux baronnet, grand chasseur de renards, qui menait la vie joyeuse d'un garçon dans un antique manoir de famille de l'un des comtés du centre. Il avait été, au temps de sa jeunesse, admirateur dévoué du beau sexe, qu'il avait, dans ses longs voyages en divers pays, étudié avec succès. Il était revenu complètement initié à ce qu'il croyait, au caractère des femmes, et passait maître dans l'art de plaire. Mais il eut la mortification de se voir dupé par une jeune novice à peine sortie de sa pension et tout à fait ignorante dans la science de l'amour. Un échec si inattendu avait complètement découragé le baronnet. Dégoûté du monde, il le quitta, se mit sous le gouvernement de sa ménagère et se livra à la chasse en émeraude accomplie. Quoi que puissent dire les poètes, l'amour passe avec la jeunesse, et une meute de chiens courants peut alors bannir du cœur la mémoire même d'une déesse d'école. Le baronnet était, quand je le connus, le vieux garçon le plus joyeux, le plus gaillard qui jamais suivit un chien, et l'amour qu'il avait jadis ressenti pour une femme s'était étendu au sexe entier, en sorte que, dans tout le pays, il n'était pas une jolie figure qui n'en eût sa part. Le dîner dura fort tard, car notre hôte, n'ayant pas dans sa famille de dames pour nous appeler au salon, la bouteille mata parmi nous son légitime empire, que ne lui disputait pas la théière, sa redoutable ennemie. La vieille salle où nous dînions répétait les bruyants éclats de la gaieté de nos chasseurs, qui faisaient trembler les antiques dépouilles suspendues à ses murs. Néanmoins, le vin et les rasades de notre hôte commencèrent à opérer par degrés sur des corps déjà fatigués par la chasse. Cette vive gaieté qui, au commencement du dîner, avait lancé tant de feu, disparaissait peu à peu, ou ne montrait plus que par intervalle un faible rayon d'une flamme près de s'éteindre. Quelques-uns des plus intrépides parleurs qui, au premier choc, avaient joué si vaillamment de la langue, dormaient d'un profond sommeil. Et aucun ne poursuivait, excepté quelques-uns de ces prosateurs à longue haleine qui, comme les chiens bassés, poursuivent incognito le fond de la conversation et ne manquent pas de paraître quand elle est aux abois. Mais ces grands parleurs eux-mêmes finirent enfin par se taire, et on n'entendait plus d'autre bruit que le concert nasal de deux ou trois gastronomes vétérans qui, ayant gardé le silence tandis qu'ils veillaient, en indemnisaient la compagnie pendant leur sommeil. Enfin, on annonça le thé et le café dans la salle, et tous sortirent de cette léthargie momentanée. Chacun s'éveilla entièrement ranimé et, tout en savourant le breuvage rafraîchissant dans l'antique porcelaine de famille, nous commençâmes à songer au départ. Mais ici un obstacle soudain nous arrêta. Pendant que nous avions prolongé notre repas, un violent orage avait éclaté. La pluie et la neige, poussées par des coups de vent impétueux, menaçaient de nous pénétrer jusqu'aux os. « On ne peut songer, dit l'hospitalier baronnet, à mettre les pieds dehors par un tel temps. Ainsi, messieurs, je vous retiens ici pour cette nuit au moins, et vais, en conséquence, faire préparer vos quartiers. » L'orage, qui devenait à chaque instant plus terrible, prévenait toute objection à une offre si obligeante. La seule crainte était qu'à tel surcroît de compagnie, dans une maison déjà remplie, ne mît la ménagère dans l'embarras de nous loger tous. « Bah !» s'écria mon hôte, « est-il une maison de garçons qui ne soit élastique, et en état de loger deux fois autant de monde qu'elle en contient ?» Ainsi, après une discussion assez gaie, la ménagère fut appelée à une consultation en notre présence. La vieille dame parut dans sa robe de fête en brocart passé qui, dans son empressement, s'agitait avec bruit autour d'elle, car, en dépit de la bravade de notre hôte, elle était un peu embarrassée. Mais, chez un garçon et avec des garçons pour hôtes, de telles affaires se terminent aisément. Il n'y a pas de maîtresse de maison pour chicaner sur le point délicat de loger ses hôtes dans les coins et greniers et de montrer les parties honteuses de l'établissement. La ménagère d'un garçon est habituée aux embarras et aux expédients. Ainsi, après quelques difficultés de côté et d'autre, et diverses consultations sur la chambre rouge, et sur la chambre bleue, et sur la chambre de Perse, et sur la chambre de Damas, et sur la chambre à fenêtre basse, tout fut enfin arrangé. Quand tout cela fut terminé, on nous rappela encore au divertissement champêtre de la table. La durée de notre sommeil de l'après-dîner, les rafraîchissements et les consultations de la salle avaient dû, dans l'opinion du sommelier aux joues vermeilles, produire un appétit raisonnable pour le souper. On nous avait donc préparé un léger repas formé des restes du dîner. Il se composait d'une surlonge de bœuf froid, de venaison hachée, d'une cuisse de poule d'Inde à la diable, et de quelques autres de ces articles légers, employés par les gentilshommes campagnards pour assurer un bon somme et un lourd ronflement. La courte sieste qui avait suivi le repas avait réveillé tous les esprits. L'embarras de mon hôte et de sa ménagère fournit plusieurs excellentes railleries à quelques convives mariés qui s'attribuaient le droit de critiquer le ménage d'un garçon. La plaisanterie tourna bientôt sur les quartiers que chacun allait trouver, d'après un casernement si inattendu dans une aussi ancienne maison. « Sur mon âme, » dit un capitaine de dragon irlandais, l'un des plus gais et des plus éveillés de la troupe, « sur mon âme, je ne serais pas surpris de voir quelques-uns des gentilshommes de bonne mine suspendus à ces murs, parcourir nos chambres dans cette nuit orageuse, ou de trouver que l'ombre d'une de ces dames à long corsage eût pris mon lit pour son tombeau dans le cimetière. « Quoi donc ? Croyez-vous au revenant ?» dit un gentilhomme forlé, avec des yeux saillants comme ceux d'un homard. J'avais remarqué pendant tout le dîner ce dernier personnage comme un de ces questionneurs infatigables qui portent dans la conversation un appétit famélique et malsain. L'histoire la plus complète ne semblait jamais le satisfaire. Il ne riait jamais quand les autres riaient et mettait toujours la plaisanterie aux voix. Incapable de jouir de la noix, il travaillait sans cesse à en éplucher la moindre partie. « Quoi, croyez-vous revenant ?» dit le gentilhomme aux questions. « Si j'y crois, » répondit le joyeux Irlandais, « j'ai été élevé à y croire et à les craindre. Nous avions une banshee dans notre famille, mon mignon. »« Une banshee ? Et qu'est-ce que cela ?» s'écria le questionneur. « Eh bien, c'est le fantôme d'une vieille femme qui s'attache à nos vraies familles milésiennes et paraît à leur fenêtre pour annoncer la mort d'un de leurs membres. »« Fort joli renseignement !» s'écria un vieux gentilhomme à l'air malin. Et qui donnait à son nez flexible une singulière expression quand il voulait railler. « Sur mon âme, sachez que c'est un titre d'honneur d'avoir une banshee à son service. C'est une preuve qu'on a un sang noble dans les veines. Mais, puisque nous parlons de spectres, savez-vous que jamais il n'y eut maison ou nuit plus convenable à une aventure de spectres ? Dites-moi, Sir John, n'auriez-vous pas quelque chambre ensorcelée pour y loger un de vos hôtes ? Peut-être, dit en souriant le baronnet. Pourrais-je aussi vous satisfaire sur ce point ? « Oh, je le voudrais pour tout au monde. Quelques chambres noires, boisées, avec des portraits maussades et menaçants qui vous regardent d'un air farouche et sur lesquels la ménagère a de délicieuses histoires d'amour et d'assassinat. Avec cela, une petite lampe, une éperouillée en travers d'une table et un fantôme blanc qui vient tirer vos rideaux à minuit. « Ma foi, » dit un vieux gentilhomme placé à un bout de la table, « vous me rappelez une anecdote. « Oh, une histoire de revenant, une histoire de revenant !» s'écrièrent tous les convives rapprochant un peu leurs chaises. L'attention de toute la compagnie se trouva alors sur le conteur. Un des côtés de la figure de ce vieux gentilhomme allait fort mal avec l'autre. Sa paupière était baissée et suspendue comme un volet démonté. Tout un côté de sa tête était dépouillé et ressemblait à l'aile d'une maison déserte et ensorcelée. Je gage que ce côté était bien fourni d'histoires de revenants. De toute façon, on demanda l'histoire. « Ah !» dit le vieux conteur. « Ce n'était qu'une simple anecdote, un vrai lieu commun. Mais vous allez l'entendre, telle qu'elle. C'est une histoire que je tiens de mon oncle, qui s'en disait lui-même le héros. C'était un homme bien sujet à rencontrer d'étranges aventures. Je lui en ai entendu conter d'autres bien plus singulières. « Quelle espèce d'homme était votre oncle ?» dit le gentilhomme aux questions. « Mais c'était un homme fin, adroit, grand voyageur et comptant volontiers ses aventures. Dites-moi, quel âge avait-il lors de cette aventure ? Eh, quelle aventure ! S'écria brusquement le gentilhomme inflexible. De par Dieu, vous ne laissez place à aucune aventure. Allons, qu'importe l'âge de votre oncle, contez-nous son histoire. Le gentilhomme en question, se trouvant pour un instant réduit au silence, le conteur à la tête dépouillée, commença ainsi.